Ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, aime ton prochain comme toi-même. Ces commandements comptent parmi les idéaux d'une société civilisée. Pourtant, qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce possible d'aimer l'autre comme soi-même? Est-ce que nos relations aux autres dépendent de notre estime de soi? Peut-on aimer autrui si l'on ne s'aime pas? Ce sont les questions que nous abordons aujourd'hui pour ce deuxième volet des émissions consacrées à nos relations aux autres avec le père Jean-François Noël, prêtre et psychanalyste.
Psy et spi avec le père Jean-François Noël, dialogue RCF.
Bonjour à tous et bonjour père Jean-François.
Bonjour Sophie.
Alors cette question, tu aimeras ton prochain comme toi-même, comment faut-il comprendre cette phrase? C'est pas toujours facile de s'aimer soi-même déjà au départ.
Non, alors d'ailleurs c'est intéressant, il y a un jeu de vases communicants entre l'amour de soi et l'amour de l'autre. Voilà. Et souvent d'ailleurs... on a l'impression que c'est plutôt une injonction comme ça de Jésus qui nous dirait « Essaye au moins d'aimer l'autre autant que tu t'aimes toi ». Mais c'est pas ce qui est écrit. Hein. Ça a souvent été pris négativement. Voilà, fais un effort pour accepter l'autre dans ta vie à la place de du souci que tu as de toi. Voilà. Et d'ailleurs, en disant ça, je viens au cœur du sujet, c'est-à-dire que nous ne savons pas forcément nous aimer. D'ailleurs, nous avons peut-être des soucis disproportionnés ou des estimes mal adaptées ou des mésestimes ou des surestimes de nous-mêmes. Mais nous avons un rapport très compliqué avec nous-mêmes. Et que donc les deux, aimer le prochain et aimer soi-même, sont un va-et-vient. Voilà. Donc, sont un va-et-vient et ne peuvent pas l'être l'un sans l'autre. Alors, comment faut-il d'abord, il faut partir du point de vue que nous n'avons pas accès à nous-mêmes directement. C'est-à-dire que, en fait, nous avons une petite idée qui évolue, la connaissance que nous avons de nous-mêmes, elle passe forcément par un autre. Ça, c'est une très vieille hypothèse qu'on a faite dès l'Antiquité et que l'Église a reprise, c'est qu'on ne peut avoir accès à soi que par l'autre. C'est pas en se mettant dans un miroir, devant un miroir, toute la journée, qu'on va apprendre à se connaître. C'est ce que me renvoie l'autre qui me permet d'avoir accès à ce que je ne veux pas trop voir de moi et qui m'est renvoyé par l'autre. Et c'est ça qui me donne accès à une certaine connaissance, parce que je ne peux m'aimer que si j'apprends à me connaître.
C'est souvent différent d'ailleurs la façon dont on se perçoit soi-même et dont l'autre nous perçoit.
Ah, c'est incroyable, on tombe des nues parce que
c'est un peu dur d'ailleurs pour l'ego souvent.
C'est pas très agréable. Alors justement, j'en reviendrai à une hypothèse tout de suite là, qui est le point aveugle. Le point aveugle, c'est ce que je ne veux pas voir de moi et qui saute aux yeux des autres. Si tu te voyais, si tu t'entendais, si... Et nous ne sommes pas du tout branchés là-dessus. Nous sommes complètement aveugles de nous-mêmes et que, par contre, ça saute aux yeux des autres. Si tu te voyais comment t'as dit ça, comment tu t'es comporté... Alors, c'est d'ailleurs, le Christ l'a dit bien plus élégamment que moi en parlant de la paille et de la poutre. C'est-à-dire, je vois très 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 bien la paille qui est dans l'œil de mon voisin, mais je vois pas la poutre qui est dans la mienne. Donc, nous sommes aveugles sur nous-mêmes. Ça, l'Évangile le confirme, et nous sommes hyper lucides sur les défauts des autres. Bon. Alors, d'ailleurs, entre guillemets, ça ne sert à rien, les parents parfois se trompent un peu, en dénonçant frontalement, tu t'as vu comment t'es ou tu te comportes. Je veux dire, si on n'a pas accès à nous-mêmes directement, c'est pas qu'un défaut, c'est aussi nécessaire. Il faut accepter de ne pas avoir une pleine connaissance de soi et que c'est des connaissances partielles qui se construisent, qui s'élaborent, qui se reçoivent des autres. L'enfant que vous avez, voilà, vous croyez le connaître, puis en fait à chaque fois quelque chose s'échappe en lui, qui permet d'ailleurs à l'enfant puis l'adolescent de s'inscrire dans une promesse. Sinon, il est inscrit dans une idée qu'on a de lui. Et ça, c'est ça qui fait souvent des souffrances importantes après. Oh, j'ai toujours été la petite fille que mes parents voulaient, le petit garçon, puis un jour, tout ça s'explose parce qu'on ne peut pas rester dans une image. Nous sommes une dynamique. C'est ça que nous n'aimons pas quand les gens nous rattrapent et nous épinglent. C'est que on nous enlève la possibilité de grandir et de devenir. Alors que nous ne sommes que du devenir. Et c'est pour ça que se recevoir d'un autre, surtout quand il est bienveillant, c'est accepter d'entendre que je ne suis pas réductible aux défauts qui apparaissent tellement en face des autres et que j'ai une possibilité de changer ou de m'améliorer. Voilà. Bon. Et c'est pour ça que l'école de l'autre, ça fonctionne quand je renvoie à l'autre qu'il n'est pas que ce que je crois. que ce que je vois ou que ce que je reçois de lui. Il est plus grand que ça, il est plus beau, il est plus, etc. Et que c'est vice-versa. C'est-à-dire que l'école de l'altérité, c'est pas de se confronter avec mes peurs des autres races, des autres cultures, des étrangetés, etc. Ça en fait partie. Mais l'idée, c'est d'élargir la conscience pour que je pose un regard sur mon prochain, quel qu'il soit, comme capable d'un devenir et d'une promesse. C'est ça, d'ailleurs, l'éducation, le fond de l'éducation entre les parents et les enfants. Et c'est pas toujours facile, parce que c'est pas toujours facile d'avoir un regard de promesse sur ses enfants. Moi, je me rappelle une fois où mon père m'a dit que j'avais cassé sa confiance. C'était peut-être, je me rappelle plus pourquoi, d'ailleurs, vous voyez, c'est un peu bizarre. Mais ça m'a absolument blessé, je l'ai jamais oublié. Parce que j'étais privé d'avenir. L'altérité ne fonctionne que quand elle donne un surcroît. Donc on peut pas, ça sert à rien de dénoncer l'autre en disant « mais t'as vu comment tu es, comment tu te comportes ». Ça, on tape sur le point aveugle, ça n'aura pas d'effet. Par contre, d'ouvrir la personne à un devenir, voilà, d'ouvrir à la personne à une amélioration, à un changement possible à l'intérieur de lui, est bien plus. Et c'est ça le fait de... Alors, j'en reviens à la première question. C'est ça, aimer quelqu'un comme soi-même. C'est que nous avons besoin que quelqu'un porte sur nous un regard qui n'est pas un regard qui nous fige, qui nous arrête comme un objet. Voilà, t'es ça, t'es ça, t'es ça, t'as toujours été comme ça, ta. Mais qui voit en nous un chemin à parcourir, un chemin à grandir. Et que nous avons besoin de le recevoir comme de le donner à quelqu'un. Et c'est ça qui fait le cœur de l'altérité. Sinon, c'est pas de l'altérité, nous sommes des objets les uns à côté des autres. Voilà.
Et comment ça se passe quand on s'aime pas soi-même? Est-ce qu'on peut aimer les autres?
Non.
Donc en fait, on doit tendre vers l'amour de soi d'abord?
L'un et l'autre en même temps. Il faut que, si tu me regardes avec amour, il faut que je me sente aimable pour que, à mon retour, je puisse t'aimer. L'amour est circulation. Elle n'est pas un plaquage. C'est pas un plaquage d'étiquette. Je t'aime. Quand on dit ça et que je m'en fous de savoir ce que tu penses de moi, c'est que je t'aime pas. C'est que tu es un objet de désir pour moi et tu es réduit à un objet. Par contre, si tu es quelqu'un, alors oui, c'est ta dynamique et ta dynamique je m'agrandis, je m'exalte, je deviens à ton contact. C'est ça l'amour. C'est pas on a l'impression que l'amour c'est un truc qu'il faut donner, qui est hyper coûteux, puis tous les jours recommencer. Non. C'est une musique, c'est une harmonie, c'est une communion qui fait que quand tu es là, je suis vivant, et quand t'es pas là, je suis pas vivant. Et que c'est réciproque. Et donc, pour que je puisse donner, il faut que j'ai reçu. Et que pour que tu puisses donner, il faut que j'ai reçu. Donc, c'est sans arrêt. C'est un mouvement. Sinon, il n'y a pas d'amour. C'est l'idéologie, et c'est l'idéologie, réductrice.
Donc, on a un vrai travail à mener sur soi, justement, pour s'aimer, pour pouvoir après s'ouvrir à l'autre.
Oui, parce que ce que l'autre me renvoie, il n'est pas dupe de mes défauts. En fait, quand on aime, on n'est pas dupe des défauts de l'autre, contrairement à ce qu'on pense. Peut-être pas au début, dans l'enivrement de l'amour et dans la première passion, on est un peu aveugle. Mais après, on voit bien que les défauts qu'a notre conjointe ou nos frères, etc. Mais nous avons une idée plus large. Je sais qu'il est comme ça. Ou qu'elle est comme ça. Mais moi, je sais d'autre chose qu'il a en lui et qu'elle a en lui. C'est ça qui est moteur. L'amour n'est pas une sorte de... C'est pas un sentiment fixé dans la date, alors au jour du mariage, tac, tac, tac. Non, c'est une confiance sans arrêt à réparer pour que l'autre trouve sous mon regard la possibilité d'avoir envie de changer. Et grâce à ça, il pourra progressivement s'approcher de ce point aveugle dont j'ai parlé, qui était un point douloureux, qui était un point un peu difficile, qu'il voulait pas accepter. Moi, on m'a toujours dit « Oh là là, mais t'es comme ci, t'es comme ça », et ça me donnait pas envie de changer.
Vous reconnaissiez pas dans ce qu'on vous disait?
Bah si, mais c'était que des défauts, quoi. Voilà, comme on dit, je veux le dire, parce que c'était « Oh, comme t'es orgueilleux, comme t'es orgueilleux, comme t'es orgueilleux ». Et en fait, ça m'a poursuivi. C'est pas que de l'orgueil, c'est qu'il y avait aussi de l'ambition personnelle, que j'avais besoin de me nourrir, voilà, et qu'il y avait de l'orgueil, certainement. Mais
c'est plus complexe que ça.
C'est plus... Et j'étais réduit à ça, alors que...
Et puis souvent, l'orgueil peut aussi... cohabiter, je trouve, avec l'humilité et beaucoup de défauts, en fait, selon certaines choses,
oui,
cohabitent aussi avec des choses plus positives.
Je dis, vous voyez, je me confesse, mais je pense que beaucoup de gens vont se reconnaître dans ce que je dis, parce que c'est...
Je ne peux pas vous donner l'absolution, par contre.
Non, je n'attends pas de vous, d'ailleurs. je vais voir mon confesseur. Mais c'est vrai que ça m'a énormément blessé, et que c'est vrai que j'étais fier. Mais en même temps, je sais que derrière cette fierté, il y avait de l'ardeur, de l'appétit, de l'attente, que les choses sont bien mêlées, et que j'aurais aimé qu'on ne me réduise pas à ça, qu'on me fasse droit à... Moi, je n'en savais rien, bien quand j'avais 17 ans. Mon père disait, mais qu'est-ce que tu vas faire? Et je voyais dans ses yeux, maintenant il est au ciel, donc il me pardonne, le désespoir, ça me tuait. C'est moi, je n'allais pas lui dire, ah, moi j'aimerais être prêtre, écrivain et psychanalyste. Il m'aurait dit, écoute, commence par passer ton bac, hein, d'accord? On verra ensuite. Mais c'est vrai que je ne savais pas. Je voulais écrire, mais je n'étais pas sûr. Je voulais être prêtre, mais je n'étais pas sûr. Psy, alors je ne voulais pas du tout être psy. Mais enfin, bon, peu importe.
C'est venu plus tard.
C'est venu plus tard. Bon. Mais vous voyez ce que je veux dire? Comment voulez-vous qu'à 17 ans, il fallait que mon père me dise, je ne sais pas de quoi tu es capable, mais tu es capable. Oui, ça, ça m'aurait fait grandir. Voilà. Et alors, il l'a dit par ailleurs, hein, sinon je ne serais pas là. Mais le fait est que de m'épingler orgueilleux, c'était une réduction et une embuscade. Quand on dit ça, un adolescent de 17 ans, putain, il sait même pas ce qu'il est, il sait même pas où il est, c'est la bagarre identitaire à l'intérieur de soi, de son désir, du rapport au monde, etc. Bon. Alors, vous voyez que, pour venir à l'autre, l'autre dans la famille, c'est vraiment le punching ball, quoi. Je veux dire, c'est celui dont on a besoin mais sur lequel on va s'appuyer pour prendre de l'élan, pour donner une forme à son identité, à son appel de vie, quoi. C'est ça, le prochain dans la famille. Pour aller voir des prochains moins proches, voisins, voisines, copines, amis, associations, partage d'idées, entreprises, vous voyez, et on va aller de plus en plus loin, et jusqu'au moment où on va rencontrer des altérités tout à fait troublantes, qui sont d'autres sociétés, d'autres cultures, et qui vont complètement
nous éblouir, aussi.
Et qui enrichissent. Moi, je me rappelle, mon premier voyage au Japon, c'était, je rejoignais une amie qui était là-bas, et qui était la fille d'un diplomate. Son papa avait été ambassadeur au Japon, donc elle avait vécu au Japon. Elle raconte qu'un jour, elle avait entendu deux petites japonaises parler. D'ailleurs, c'était les filles d'un autre ambassadeur. Et elle trouvait ça tellement beau qu'elle s'était dit, elle avait 8-9 ans, qu'elle vivrait au Japon, qu'elle parlerait japonais, voilà. Et ce qu'elle est.
Ah, je vais vous dire, c'est le cas aujourd'hui.
C'est le cas aujourd'hui. Elle est mariée à un japonais et elle a des petits-enfants japonais et elle parle japonais.
Alors, pour terminer, une dernière question. Aimer l'autre comme soi-même, est-ce qu'il n'y a pas aussi un risque de narcissisme exacerbé?
Alors, oui, mais non. C'est là l'équilibre. C'est que vous voyez bien que le narcissisme n'est pas de l'amour, c'est une déformation, c'est un rapport complètement crispé avec soi-même. Comme je l'ai expliqué, l'amour étant une dynamique de don et de recevoir, don et recevoir, si je me replie sur moi-même et si je n'ai souci que de moi-même, il va falloir que je vais me perdre. Il y a rien que ces narcisses dans le miroir qui tombent dans l'ennui, le vide. Il y a du vide. Je suis rien sans l'autre. Alors, même les vocations les plus radicales, comme chez les chartreux, il faut qu'il y ait Dieu en face, sinon l'homme n'est rien. Je ne suis rien. C'est ça qui est la fascination. Et alors, on peut se crisper sur un narcissisme. Il y a des gens qui vivent dans une espèce d'hémorragie narcissique. Ils ont remplacé le souci de soi par un avoir plus d'argent, de pouvoir. Et puis, on voit bien que c'était que des faux semblants, c'est que des fausses réponses.
Merci beaucoup, Père Jean-François Noël. On poursuit notre discussion la semaine prochaine autour du thème « Comment aimer l'autre quand c'est difficile ?». Je rappelle que vous pouvez retrouver cette émission ainsi que toutes les émissions Psy et Spi en podcast sur rcf.fr. Merci de votre fidélité et à très bientôt sur RCF.
Psy et Spi, avec le Père Jean-François Noël, Dialogue RCF.